Europe 1. Europe 1.
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Je les ai contemplées en extase. Quand elles partirent, je fus dans l'ombre et le froid. Je crus qu'elles emportaient la beauté du monde. Tels sont les mots d'Auguste Rodin lorsqu'il découvre en 1906 à l'exposition universelle de Marseille le spectacle des danseuses cambodgiennes du Ballet Royal accompagnant le roi Sisovat dans sa visite en France. Subjugué par la beauté de cette danse, jusqu'alors quasiment inconnue en Europe, le sculpteur va capturer les danseuses sur le vif, réalisant en 4 jours plus de 150 esquisses. Toutes sont croquées de façon isolée, indépendamment du corps du ballet, comme pour suggérer leur singularité. Le trait figure le mouvement, sans se soucier du détail de leur costume, stylisé ici par un chapeau pointu, là par quelques rares épaulettes. Qu'importe le support, un papier d'emballage glacé marron acheté à la hâte chez un épicier de la ville ou un journal, pourvu que Rodin ait l'ivresse. Celle d'être confronté à des formes de beauté inédites et à des mouvements qui le transportent, au point qu'il retrouve, à 66 printemps, l'énergie d'un jeune homme. Je sens bien qu'à les regarder, ma vision s'est élargie. J'ai vu plus haut et plus loin. Enfin, j'ai appris, confiera-t-il. Qu'est-ce qui, dans les gestes des danseuses du Ballet Royal du Cambodge, a tant pu fasciner le sculpteur au point de lui agrandir le regard? La question se pose d'autant plus que le sculpteur, en ce début du XXe siècle, en connaît un rayon sur la danse. Elle a d'ailleurs une place essentielle dans son œuvre et se conjugue sous toutes ses formes. Classique, folklorique et même exotique. Rodin s'étant déjà notamment intéressé aux danseuses javanaises à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1889. Mais là, à Marseille, et quelques jours avant, à Paris, au théâtre du Précatelan où les danseuses du Ballet Royal du Cambodge se produisent pour la première fois en dehors des frontières de leur pays, Rodin n'est pas simplement face à un nouveau motif. Attiré par leurs mouvements d'extension extrême et de redressement dans un flux évoquant les ondulations du serpent, captivé par les flexions de leurs membres et par la géométrie parfaite de leurs mains, le sculpteur rencontre un idéal de beauté qui lui évoque celui de la Grèce antique. Un regard qui détonne dans une époque coloniale où les arts indochinois sont souvent réduits à des curiosités exotiques quand ils ne sont pas instrumentalisés dans la course au prestige entre puissances coloniales. Une rencontre avec l'universel qui en dit long aussi sur la majesté et le raffinement de cet art millénaire que porte le Ballet Royal cambodgien, dont les prémices sont encore visibles aujourd'hui sur les bas-reliefs d'Angkor. De la pierre à la chair, la frontière semble bien mince entre la posture des 1700 apsaras, gardiennes des temples montagnes d'Angkor, et celle des danseuses du Ballet Royal du Cambodge d'aujourd'hui. En effet, malgré les siècles qui les séparent, l'expression impassible du visage et les mouvements des mains où se touchent le pouce et l'index sont semblables et semblent promises à l'éternité. Les sculptures des danseuses des bas-reliefs angkoriens datant du 7e siècle sont les témoignages matériels les plus anciens qui atteste de l'existence de la danse dans la vie culturelle du pays qu'on appelle aujourd'hui le Cambodge. Investie d'un rôle sacré et symbolique, la danse fonde très tôt l'identité khmère et incarne les valeurs de raffinement, de respect et de spiritualité. Véritable messagère des rois auprès des dieux et des ancêtres, les danseuses du harem royal participent aux cérémonies officielles du palais en contribuant au prestige du royaume khmère. Ainsi, la danse royale se fixe à la période angkorienne, un peu comme en France où 10 siècles plus tard, la danse de cour qui est à l'origine de la danse classique se verra codifiée à Versailles par Louis XIV. Mais il faut attendre le milieu du 19e siècle et le règne du roi Hang Dong pour que cette danse royale cambodgienne se déploie. Présenté comme un véritable rénovateur des arts de la cour, c'est à lui que va échoir la difficile tâche de tracer les contours de la danse royale, notamment en la distinguant des danses voisines du royaume du Siam. C'est avec le protectorat français instauré en 1863 que des documents nous informent plus précisément sur le fonctionnement du Ballet Royal qui est sans conteste la troupe de danse la plus réputée du pays. Elle est alors exclusivement féminine. Celles qu'on appellerait chez nous « petits rats » sont là-bas soit des princesses, soit des jeunes filles offertes au roi par leur famille en signe d'allégeance. Des familles qui, en retour, peuvent espérer recevoir une protection de la cour et voir s'élever leur statut social. Car oui, une fois qu'elles ont mis le pied au palais, les danseuses du corps ballet sont considérées comme des serviteurs de la cour où elles vivent et se produisent pour honorer et légitimer le roi. Toujours présentes aux cérémonies, elles dansent aussi dans des soirées royales où sont reçus des invités de marque, souvent des gouverneurs ou des représentants étrangers. Leur répertoire, très inspiré des mythes khmers, se décline autour de quatre personnages. Les personnages féminins, comme les apsaras, ces fameuses nymphes célestes ondoyantes à la beauté étourdissante, les princesses, les sirènes ou encore les femmes oiseaux. Deuxième catégorie, les personnages masculins reconnaissables à leurs épaulettes et à leurs pantalons de soie aux mille plis. Enfin, les deux dernières catégories, toujours masquées, recouvrent les personnages démoniaques, souvent figurés par les géants, et les personnages simiens, les singes, autrement dit, que l'on reconnaît à leur queue en tissu. Au cœur de l'architecture chorégraphique, il y a le geste délicat, minimaliste et infiniment subtil. La cambrure longuement travaillée de leurs mains et de leurs pieds, véritable langage qui se déploie dans un temps irréel, presque immobile. Un spectacle qui ne peut s'exécuter autrement qu'en musique, accompagné par l'orchestre Pump It, où se rencontrent harmonieusement xylophone aérien, gong cristallin, tambour, flûte, hautbois et cymbalette, dans un flux sonore aussi apaisant qu'un bruit de source, comme vous pouvez l'entendre. Évidemment, cette quête de perfection ne va pas sans sueur et sacrifice, avec une concurrence exacerbée entre les danseuses pour remporter les faveurs des souverains. Les élus qui réussissent à devenir concubines ou épouses ont une réelle influence sur les affaires du royaume, et d'autant plus lorsqu'elles donnent naissance à des enfants. D'après certains historiens, leur pouvoir était tel que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le protectorat cherche, au début du XXe siècle, à réduire le budget alloué à la cour afin d'augmenter sa propre mainmise sur le royaume. Car le ballet, au-delà de la beauté qu'il renferme, est bien un instrument de prestige. Tout comme les danses de l'Inde et de Java pour les empires britanniques et néerlandais, la danse de cour cambodgienne représente pour la France coloniale, au même titre que les ruines d'Angkor, le vestige d'un passé dont le potentiel peut être mis au profit dans la lutte d'influence entre les empires coloniaux. Un trésor d'un peuple que les Français colonialistes considèrent comme incapable de préserver sans l'intervention de la France civilisatrice. C'est dans le contexte de la promotion de cette entreprise coloniale qu'à la demande du gouvernement français, le ballet du roi Sisovate est sollicité pour la première fois à se produire hors du royaume en tant que divertissement scénique. C'est l'exposition universelle de 1906 dont le sculpteur Rodin, tout comme notre presse nationale, ressortiront ébahis. Un spectacle dont le succès se répétera en 1937 à l'occasion d'une nouvelle exposition universelle, toujours à Paris. Alors que le ballet est célébré comme joyau de la réussite de la politique coloniale, quelques observateurs lucides, comme l'artiste et scientifique français Georges Grolier, ont conscience de sa fragilité. Ce dernier entreprend en 1927 de répertorier toutes les postures de la danse royale lors d'une longue séance photo. Pressentait-il le sombre nuage des Khmers rouges qui va menacer, quelques décennies plus tard, le ballet royal khmer? En attendant, l'indépendance du Cambodge, proclamée en 1953, fait souffler un vent nouveau sur les arts et sur le ballet royal en particulier. Alors que l'économie s'engage dans une période faste et que le pays s'émancipe avec succès de 91 années de colonialisme, justifiant alors son surnom d'île de la paix, la troupe, elle, va connaître de grandes métamorphoses sous le règne de la reine-mère Sisovate Kosamak. Inspirée par les pratiques occidentales, la reine révolutionne d'abord l'espace scénique du ballet en le surélevant et en le rendant frontal, rompant avec la tradition où les danseuses étaient à la hauteur du public qui pouvait les contempler de face, mais aussi sur les côtés de la scène. Autre changement introduit par la reine Sisovate Kosamak, la standardisation des gestes avec une volonté de fixer certaines postures dans une amplitude moins importante que par le passé. Ainsi, les danseuses sont tenues par exemple de placer leurs bras moins haut par rapport à leur visage et à adopter un jeu plus subtil dans leur penchée. Au niveau purement esthétique, la reine-mère enlève la couche épaisse de poudre blanche qui recouvrait jusqu'alors le visage des danseuses pour laisser éclore leur expressivité. Aussi, le ballet, jusqu'alors uniquement réservé aux femmes, s'ouvre-t-il aux hommes pour les rôles de singes qui deviennent plus athlétiques. Et aussi, il se démocratise. La reine ayant à cœur d'ouvrir la cour à tous les jeunes souhaitant apprendre la danse royale. C'est aussi à l'époque de la reine Kosamak qu'un personnage clé va connaître son envol, celui de l'Apsara. Cette créature mythologique serpentine représentée sur scène par un costume flamboyant, une tiare gigantesque à trois pointes, une large collerette ouvragée, une ceinture assortie aux dimensions tout aussi imposantes. Ce costume, personne ne va mieux le porter que la danseuse Bofa Devi, qui n'est autre que la fille du chef de l'État de l'époque, Norodom Sihanouk, et surtout la petite-fille de la reine-mère. Avec sa beauté irradiante, c'est elle qui, en 1962, dans la peau de ce personnage, va éblouir le public de l'Oiseau de Paradis, réalisé par Marcel Camus, avant de fouler la scène de l'Opéra de Paris le 25 juin 1964, devant un général de Gaulle extatique. Ce soir-là, après le défilé du corps de ballet parisien et une bourrée fantasque, elle mène la danse des apsaras spécialement créée dans le pur style classique par Sa Majesté la Reine. En bleu, blanc et rouge, les somptueux costumes brodés d'or et d'argent scintillent au rythme grelottant de l'orchestre Pimpéat. Si la princesse Bofa Devi a connu et incarné le ballet royal à son firmament, elle va hélas traverser avec lui ses heures les plus obscures. En 1970, la République khmère est instaurée par le général Lan Nol et cela se transforme rapidement en guerre civile. Si le ballet royal réduit à l'appellation danse classique lui survit, il va être décimé avec l'arrivée du dictateur Pol Pot et des Khmers rouges au pouvoir en 1975. Il s'agit alors pour le régime pro-communiste de faire table rase du passé et de gommer tout ce qui relève, selon eux, de l'ordre féodal. Les artistes qu'ils considèrent comme appartenant au clan de l'oppresseur sont alors les premiers visés. Ils sont chassés dans la plus grande violence quand ils ne sont pas exécutés après avoir été exploités dans des camps de travaux forcés. Pour sauver sa peau, il faut soit prendre la route de l'exil, soit dissimuler son identité. Les musiciens cachent leurs instruments dans des lieux où les autorités n'auraient pas idée d'aller les chercher, allant parfois jusqu'à les enterrer. Quant au corps du ballet royal, il se réinvente sous différentes identités. Comme la danseuse Pen Sokwon, dont notre invité, le réalisateur Xavier de Lausanne, a recueilli le témoignage dans La beauté du geste, le magnifique film qu'il consacre au ballet royal du Cambodge. Elle raconte...
À Battambang, ils nous ont mis au milieu de la forêt. On était dans la forêt, on n'avait plus de maison. On a dû couper des arbres pour construire une cabane. On avait juste des feuilles pour faire les murs et un abri. Je devais cacher mon histoire. Quand on me demandait mon métier, je disais que j'étais tailleuse. Je faisais des vêtements. Je ne disais pas que j'étais artiste. Si j'avais dit la vérité, on m'aurait tué.
En 5 ans, les Khmers rouges annihilent ce qu'une civilisation a mis des siècles à bâtir. Le bilan est sanglant. Seuls 10% des artistes survivent au massacre. Le ballet royal subit dans les mêmes proportions cet anéantissement. Comment a-t-il gardé en mémoire le répertoire sans pouvoir ni jouer, ni chanter, ni danser ? Comment cette tradition qui repose sur une transmission orale a-t-elle pu survivre au génocide ? Au cœur des ténèbres, lors des rares pauses que les danseuses s'octroient dans des camps de travaux forcés, elles s'assouplissent et esquissent en cachette quelques mouvements qu'elles prolongent en pensée seulement, en imaginant le jour où, si elles gardent la vie, elles retrouveront la scène. Et la libération arrive enfin, après 4 longues années. Le régime Khmer Rouge est chassé de Phnom Penh au début de l'année 1979 par l'invasion vietnamienne du Cambodge. Le ballet royal, lui, est exsangue, comme l'ensemble des arts classiques et populaires du pays. Disséminé dans l'espace, divisé entre ceux qui ont subi l'horreur des camps et ceux qui ont pu s'exiler sur d'autres terres, en particulier aux États-Unis où de nombreuses danseuses y ont trouvé refuge, le corps du ballet est aux abois. Mais le peuple cambodgien étant un peuple d'artistes, ou du reste un peuple qui aime les arts, comme le souligne Prong Chieng, l'un des plus grands artisans de sa reconstruction, et il va se mobiliser comme jamais pour faire renaître de ses cendres le ballet royal à l'orée des années 1980. D'ailleurs, l'histoire de Prong Chieng, danseur devenu maître puis directeur de l'école des beaux-arts, résume à elle seule la splendeur, le déclin puis le renouveau que connaît le ballet dans la seconde moitié du XXe siècle. Initié avec sa sœur, par sa grand-mère, maîtresse de danse, dans le ballet de la reine-mère Koh Samak, il excelle à partir des années 1960 dans les rôles de singe. Il a 30 ans quand Pol Pot prend le pouvoir. Forcé de quitter Phnom Penh, il prend seul la route de l'exil vers la Corée. À son retour en 1979, il apprend que sa sœur fait partie des 2 millions de victimes du génocide perpétré par les Khmers rouges. Accablé par cette terrible disparition, il croise alors Cheng Phan, un ancien camarade singe comme lui, dans la ville de Kampong Thom, à 150 km au nord de la capitale, et a créé une école d'art, la Colonie des Arts. Son ami, qui deviendra ni plus ni moins ministre de la Culture dans les années 1990, le pousse alors à reprendre la danse classique. Ainsi, à travers des écoles qui se développent en province sur les ruines des camps de réfugiés, le ballet se reforme par petits îlots. Les retrouvailles entre les survivants ont une intensité à la mesure des coups terribles portés par l'histoire et sa grande hache. On tombait dans les bras les uns des autres, se souvient Prong Chieng. On pleurait, on se souvenait. On ne trouvait plus les mots, nos larmes remplaçaient les mots. Passée l'émotion vive des retrouvailles, peu à peu, la mémoire des gestes, des chants et de la musique revient grâce aux souvenirs de chacun. Souvent, par bribes, un danseur se rappelle quelques gestes, aidé par un musicien qui, à son tour, se remémore un bout d'une partition dont une danseuse déroule ensuite les mouvements, reconstituant ainsi le puzzle du répertoire. À Phnom Penh, où le ballet ne reviendra plus jamais dans l'enceinte du Palais Royal, une école des beaux-arts se constitue sous le patronage de Prong Chieng, avec les survivants et leurs descendants. Les élèves sont pour la plupart des orphelins, orphelins de père, orphelins de mère, parfois les deux. Les maîtres de cette école qui est dirigée par Prong Chieng doivent reprendre à zéro les 10 années d'apprentissage nécessaires à la formation d'un danseur classique avec le trésor d'une mémoire qu'ils sont peu nombreux à pouvoir transmettre. En 1989 ouvre l'Université royale de Phnom Penh, une institution qui achève de redonner un cadre officiel au ballet royal. Les élèves, après leur formation de base à l'école des beaux-arts, enchaînent avec 4 ans à l'université et en ressortent après plus de 10 ans avec un niveau professionnel qui leur permet d'évoluer dans le corps de ballet. 2 ans plus tard, le roi Norodom Sihanouk retrouve son pays et son palais après des années de déchirures politiques. Une cérémonie est organisée au théâtre sur Amarit. Sa fille, Bofa Devi, interprète Tep Monorom, l'une des danses préférées de son père. Après, elle n'a plus jamais dansé. En revanche, c'est elle qui va continuer à faire danser le ballet. Nous nous sommes comptés, il restait une 30aine de survivantes, constate-t-elle à son retour en 1991. Au cours de la décennie qui suit, elle donne une nouvelle impulsion à la troupe, en repensant les costumes, les coiffes et les maquillages. Elle souhaite, comme sa grand-mère, la reine Sisovat, redonner vie aux gracieuses apsaras de grès, danseuses célestes qui animent le temple d'Angkor Wat. Ces nouvelles chorégraphies voyagent de New York à Tokyo, de Hong Kong jusqu'en Europe. En 1994, le Ballet Royal est de retour à Paris sur la scène du Théâtre du Rond-Point. Cette invitation, qui s'est faite à l'initiative de la Maison des Cultures du Monde, symbolise sa renaissance officielle. Bofa Devi, propulsée ministre de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge de 1999 à 2004, continue d'œuvrer sans relâche auprès de la troupe. C'est elle qui, en 2003, monte le dossier qui fera entrer le Ballet Royal du Cambodge au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Son inscription officielle par l'UNESCO a lieu en 2008. Le Ballet Royal rejoint la prestigieuse liste des trésors qu'il faut absolument préserver au même titre que les arts de la céramique en Ouzbékistan ou le flamenco en Espagne. Toujours dans cet esprit de préservation est consciente que la transmission orale de cet art l'expose à l'oubli. Boffa Devi réalise en août 2019 une vidéo de chacune des postures du répertoire du Ballet Royal afin d'établir une base de données qui soit la référence de la danse classique khmer. Hélas, 3 mois plus tard, elle décède. Mais le ballet, lui, va une nouvelle fois survivre à la mort d'une de ses plus grandes étoiles, mais aussi à celle qui l'a fait renaître de ses cendres. Oui, mais ce joyau de la culture cambodgienne qui a survécu à la chute d'Angkor, à la colonisation française, puis au massacre des Khmers rouges, est aujourd'hui un trésor fragile. Malgré son inscription au patrimoine immatériel de l'humanité, il n'a plus la magnificence et le prestige dont il jouissait lorsqu'il était établi au Palais Royal. Tiens justement, remontons le temps, l'espace d'un instant. Nous sommes en 1899 à Phnom Penh devant le Palais Royal. Devant la caméra de Gabriel Vert, chef opérateur des Frères Lumière, deux danseuses cambodgiennes du roi Norodom II miment un combat à l'épée. Leurs gestes lents et précis sont capturés en noir et blanc pendant 53 secondes. C'est l'un des premiers films de l'histoire du cinéma. Que le mouvement des danseuses cambodgiennes ait captivé les inventeurs du cinéma comme des artistes aussi majeurs, je vous le racontais au début de mon récit que le sculpteur Auguste Rodin, au début du XXe siècle, n'est pas anodin. Le style lent et méditatif de la troupe du Ballet Royal cambodgien est unique par son alternance quasi hypnotique entre immobilité et mouvement. Lorsque le ballet évolue sur scène, il juxtapose en effet de grands mouvements engagés, souvent par les jambes, comme tourner, marcher, s'agenouiller, et des moments où les danseuses restent sur place, les bras souvent en hypertension, effectuant avec les mains et les pieds de petits gestes dont la cambrure semble surnaturelle. Au-delà de la technique pure qui n'a rien à envier à la danse classique occidentale, il y a dans le Ballet Royal Khmer quelque chose d'un art total, mariant la danse à la musique mais également à la poésie et à la littérature traditionnelle, le répertoire allant puisant dans la mythologie khmer. Hélas, aujourd'hui parfois réduite à une attraction touristique qui n'a plus rien de royal dans les restaurants de Phnom Penh où la danse des apsaras hypnotise des voyageurs aussi naïfs que médusés, la danse classique khmer continue heureusement d'être enseignée dans les règles de l'art à l'école et à l'Université des Beaux-Arts de Phnom Penh. Elle continue aussi de s'expatrier dans le monde entier dans le cadre de tournées d'exception. La dernière en date, en France, a eu lieu en 2018 lorsque le Ballet Royal a fait salle comble 2 soirs de suite à la Cité de la Musique de Paris avec Métamorphose, une création hommage à Rodin. Ce qui frappe désormais à bien observer la jeune génération des danseuses du Ballet Royal, c'est un retour au style ample ancestral avec des mouvements larges et majestueux, comme si le Ballet Royal ne pouvait évoluer que dans un éternel retour au passé, dans une révérence perpétuelle aux gestes millénaires des danseuses sculptées pour l'éternité sur les bas-reliefs d'Angkor.